Dans une fiction, on peut tout à fait restituer une pensée sans la partager, pour la dénoncer même. Voilà, c'est la force d'une œuvre d'art. Vous me suivez ?
Les filles, vous m'entendez ?
Yes, we hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Une art to vous.
Hey, boy ! Come save me !
You're gonna be fine.
Say it again.
Une art to vous. We're gonna be fine. Go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Oui, la force d'une œuvre d'art, c'est de savoir restituer ça. Une pensée, celle de la jeunesse et de ses tourments, dans la France d'aujourd'hui, et tous les deux la décrivent au plus juste, au plus près. Deux cinéastes de notre temps, ce matin, dans ce studio. Bonjour tout le monde et bienvenue et salut Laurent.
Oui, bonjour Christine, bienvenue, tout roule pour moi, et bienvenue à tous et à toutes.
Une jeune fille portugaise de la deuxième génération partagée entre son amour pour sa famille et ses désirs d'indépendance. Tous les rêves du monde, c'est le titre de ce film. Bonjour Laurence Ferreira Barbosa.
Bonjour.
Heureux nous le sommes de ce grand retour sur le grand écran. À vos côtés, un autre cinéaste qui capte une autre jeunesse. À La Ciotat, une jeunesse ignorée, déclassée. Le film s'appelle L'Atelier. Bonjour Laurent Cantet.
Bonjour.
Pourquoi vous réunir tous les deux aujourd'hui ? Ben, parce que nous aimons beaucoup ces deux films qui réussissent à travers la fiction à transmettre les désirs, les peurs et les attentes d'une génération. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma, Blade Runner Le Retour, une héroïne Latifa, la fin heureuse d'Anneke, une forêt animée, des tabous à Téhéran et un mariage catastrophe. Une question avant de démarrer. Vous êtes tous les deux des adultes éduqués, cultivés, bref, armés dans la vie. C'est pour cela que vous filmez une jeunesse désarmée.
Tous les cas, à chaque fois que je fais un film, c'est pour essayer aussi de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas beaucoup. C'est aussi peut-être pour, et dans le cas de l'atelier, pour marquer... pour prendre en compte ce fossé qu'il peut y avoir entre moi peut-être et ces jeunes gens, entre les gens qui ont effectivement les armes pour affronter ce monde et d'autres qui en ont moins ou qui en ont d'autres qu'on ne comprend pas forcément bien. Et oui.
Laurence Ferreira.
Oui, je suis d'accord. Je trouve aussi que c'est qu'on a envie de donner la parole aux gens qu'on entend moins. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le personnage de Pamela dans mon film, qui est donc une jeune fille enfant d'immigrés portugais. Et je pense que effectivement, les enfants d'immigrés portugais s'expriment peu dans l'espace public et qu'on entend peu parler d'eux. Et je trouvais que c'était intéressant. En tout cas, moi, j'avais envie d'aller voir de plus près.
Eh bien, on va les entendre dans l'espace privé.
T'as pleuré ?
Non, pourquoi ?
T'as pleuré ?
Mais non, mais...
Mais quoi ?
Je veux plus être une charge pour vous. Je me disais que je vais pas au Portugal avec vous cet été. Je vais rester ici, je vais trouver un travail, comme ça je pourrais vous aider un peu. Et j'aimerais bien m'acheter un nouveau piano.
Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
Vous travaillez tellement.
Nous, tout ce qu'on veut, Pamela, c'est que tu trouves ta voie. On est d'accord pour te payer des études. On te l'a toujours dit.
Tu vas repasser ton bac, arrête.
Oh, fous-lui la paix avec le bac.
Tu l'as appelé le médecin légiste ?
Mais moi, j'ai eu cette idée quand j'avais 14 ans. Médecin légiste. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. J'aurai jamais le niveau.
Alors, tu laisses tomber. T'as toujours dit que tu voulais aider les morts, Pamela.
Oui, c'était mon rêve. Toi aussi, t'avais des rêves quand t'étais jeune, non ? Bah voilà. S'il te plaît, maman, arrête de m'en parler tout le temps.
D'accord, je t'en parle plus. Mais si t'as encore un tout petit peu de courage, je te demande de le repasser, Pamela. Pour toi, mais aussi pour nous. Tu te rends compte comment on est déçus si t'as pas ton bac ?
Justement, j'en ai marre de vous décevoir.
Mais tu ne m'as jamais déçue, Pamela. Ça, c'est des choses qui arrivent.
Tous les rêves du monde, Laurence Ferreira Barbosa, un nom portugais hérité d'un grand-père immigré à 17 ans en France. Vous dites, je ne suis pas portugaise, mais perçue comme telle. C'est quoi être perçue comme portugaise en France ?
En fait, beaucoup de gens pensent que je suis une enfant d'émigrée. Voilà, donc, et apporter un nom étranger. Sans, enfin, depuis que je suis enfant, on me demande de quel nom est-on, de quelle origine es-tu. Donc voilà, je disais ben, d'origine portugaise. Et comme je n'ai pas connu ce grand-père, c'était très étrange pour moi de voilà cette origine portugaise, sans rien savoir de ce grand-père qui donc n'avait rien pu me transmettre. Et donc ça m'a, je pense, beaucoup. Ça m'a beaucoup fait rêver en même temps aussi à cette origine étrange, mystérieuse et qui était quand même la mienne puisque les gens me le signifiaient, enfin me voyaient comme étant quelqu'un d'origine portugaise, donc portugaise. Enfin voilà, donc ça a fini par ça a façonné, je pense, une part de
ce que vous êtes,
de ce que je suis, oui.
Pamela, votre jeune héroïne, alors elle est héritière de ça, justement, vous dites de principes, de valeurs qui incitaient la discrétion, la réserve, la soumission et la passivité. C'est chargé comme
un
tableau, hein, sur cette immigration portugaise.
Oui, non, mais je dis qu'effectivement, la communauté portugaise en France, pas moi qui le dis, mais c'est construite effectivement sur des notions de discrétion et d'invisibilité. Ils n'ont pas voulu se faire remarquer, ils n'ont pas voulu... ils ont voulu être discrets.
Réussi à s'intégrer, être intégrés.
Voilà, ils sont tellement discrets qu'effectivement on ne les voit pas. Et je pense qu'effectivement c'était aussi pour eux une forme de stratégie pour, d'une certaine manière, ne pas s'intégrer et de ne pas se dissoudre complètement dans la société française et rester entre eux.
Et entretenir une culture.
Et entretenir leur culture, très importante pour eux. L'identité portugaise est une identité très forte.
J'arrive pas à voir, c'est une critique ou une... Vous voyez, de vous par rapport à cette culture-là?
Non, c'est pas une critique du tout, c'est une constatation.
Oui.
Moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi... Justement, la communauté portugaise en France n'avait pas de fiction, voilà, de films de fiction. Il y a quelques documentaires, mais vraiment pas de fiction.
Enfin,
il y a eu La Cage Dorée.
Voilà.
Mais j'avais fait cette constatation avant La Cage Dorée. Donc voilà. Donc à partir de là, ça m'a rendu curieuse, ça m'a intriguée. C'était évidemment c'est un point, enfin c'est pas un point de départ pour un film, c'est trop abstrait, c'est trop vague, mais en tout cas ça m'a donné envie de connaître ce monde-là, le monde des immigrés portugais en France.
Laurent Contet, vous avez vu le film de Laurence Ferreira Barbosa, donc quel regard vous portez aussi vous sur cette étude, analyse à travers une adolescente de cette communauté qui vous est un petit peu étrangère.
Qui m'est étrangère, effectivement. Comme elle l'est, effectivement, je pense à beaucoup de gens. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était de sentir combien cette culture était à la fois très fantasmée quand on est à Paris et qu'elle s'incarne d'un seul coup très très fort dans les séquences où elle arrive au Portugal et où d'un seul coup, j'ai l'impression que et l'histoire et les personnages sont totalement solidaires du paysage. Et d'ailleurs, la façon dont tu filmes le voyage vers le Portugal nous amène à ça, quoi.
Oui, parce qu'il y a un amour des Portugais pour leur pays.
Ils ont raison, parce que c'est un super beau pays.
Ils ont raison. Et pour le village dont ils viennent.
Le retour au village tous les mois d'août.
Voilà, tous les mois d'août, le rituel du retour au village.
Le village qui d'ailleurs ne doit pas changer entre temps.
Le village qui ne doit absolument pas changer. Voilà. L'émigré veut retrouver son village tel qu'il l'a quitté. Tel qu'il l'a quitté. Donc, voilà, c'est, effectivement, dans le film, il y a un banc qui tout d'un coup vient perturber le personnage du père.
Et dans ce village, elle va retrouver une amie d'enfance qui va un petit peu lui ouvrir la voie donc vers ses désirs et d'émancipation. Et cette jeune fille a un fiancé qui va un petit peu la provoquer. On écoute cet extrait.
Elle ramène un couteau.
Non mais sérieux les gars, vous faites quoi là?
Hein?
Qu'est-ce qu'il y a?
Excuse-nous, mais on a ajouté un petit peu la dalle.
Non mais c'est pas pour nous, c'est un gâteau qu'elle amène à son assoce.
Ah, t'es dans une asseuse de portugais. T'as pas l'air si con pourtant. Non, je déconne, mais quoi, t'aimes bien ça, toute cette merde?
Tu penses que tu veux, mais moi je trouve que c'est important de connaître sa culture.
Et quoi, tu trouves franchement que c'est de la culture?
Oui.
Non, mais tu vas pas emmerder ma copine, moi aussi je suis dans cette assos.
Tu m'as dit que t'étais partie.
Non mais oui, j'étais dans cette assos.
Parce que c'est pas de la culture, c'est du folklore. Et ce folklore, c'est Salazar. Ça te dit quelque chose, Salazar? Fasciste, tout ça, ça te dit rien?
Je vois pas le rapport.
Mais c'est ça le problème. Tu vois pas le rapport. T'es complètement conditionné, tu vois. T'as pas envie d'arrêter toute cette merde?
Je vois pas les choses comme toi et j'ai pas envie de discuter.
Toi, t'es une vraie portugaise, toi. Je me fais discrète, je bosse comme un âne et j'ai la saudade. Ça.
En tout cas, j'ai pas honte d'être portugaise.
Mais moi non plus, j'ai pas honte d'être portugais. Je dis juste que moi, je me soumets pas, tu comprends ça? Je ne jouis pas de ma propre nullité, tu comprends ça?
Ta connerie.
Arrête, c'est une discussion de portugais ici. Je suis en train d'essayer d'ouvrir l'esprit de la petite dame, là.
Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas pour ça qu'on doit tous penser comme toi.
Surtout que c'est pas du tout intéressant ce que tu dis.
Et bim!
Attends un peu. Tu sais ce que c'est, ça? C'est de la soumission. C'est de la soumission. Soumission.
Non, mais pars! Partez!
Laurence Ferreira-Barbosa, cette idée de soumission, justement, comme il le dit, est-ce qu'elle vient aussi de 50 ans de dictature de Salazar?
Bien sûr. Non, mais bien sûr qu'il y a une histoire.
Ben oui.
Voilà, les immigrés portugais héritent de l'histoire du pays. Et effectivement, c'est un pays qui a connu 50 ans de dictature de Salazar.
Est-ce qu'on en parle beaucoup là-bas, pardon?
Je ne sais pas, en fait, mais il y a des traces.
Comme?
J'ai pas d'exemple comme ça, mais il y a des traces de cette dictature. Je pense encore même dans la mentalité des gens, dans la façon dont les gens envisagent. Par exemple, dans les petits villages, il y a une espèce de, ils sont assez isolés les villages et ils sont, je trouve, très peu ouverts souvent sur le monde. Et je pense que c'est des gens qui ont eu l'habitude de vivre comme ça, de manière très loin, très coupée du monde, et très isolée.
D'ailleurs, il y a la réflexion, tu sais, la différence entre le Portugal et le cancer. Le cancer évolue.
C'est pas le Portugal, oui. Ouais. C'est pas gentil. Hein.
Non, c'est pas gentil, c'est vous qui l'avez inventé, cette blague.
Non, en plus, c'est un Portugais qui me l'a raconté.
Bon, bah, ça va alors. Voilà.
L'extrait qu'on vient d'entendre me semble aller dans ce sens-là. Les dialogues sont extrêmement bien écrits, d'une justesse et d'une complexité surtout. C'est-à-dire qu'il y a cette façon en permanence de ne pas tomber dans le cliché, de la caractérisation des personnages et de ce qu'ils disent, les parents, les enfants entre eux, etc. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Ça ne s'entend pas, je ne vous dis pas que ça s'entend, le travail.
Oui.
Je vous demande juste, est-ce que c'est beaucoup de travail?
Enfin, c'est-à-dire que moi, je me suis... évidemment que je voulais ne pas du tout être dans le cliché. C'était facile.
Et vous ne l'êtes pas.
C'était facile.
Ouais.
Donc, pour ne pas être dans le cliché, effectivement, il faut être un petit peu...
Il faut du boulot.
C'est du travail, d'observation. J'ai beaucoup écouté des immigrés, des enfants d'immigrés. Ouais. J'ai beaucoup observé. Et après, j'essaye de restituer quelque chose de manière un peu subtile sur ce qui se joue dans tout ça, c'est sur les contradictions, sur les pourquoi, voilà. Donc bien sûr que c'est du travail, oui.
Et d'ailleurs, une grande inspiratrice de ce film, c'est la jeune Pamela que vous avez rencontrée dans une association franco-portugaise.
Non, alors je l'ai pas rencontrée dans une association. Je l'ai rencontrée. En fait, je cherchais à rencontrer des jeunes filles, donc filles d'immigrés. Et je suis allée tout simplement dans une classe de portugais au lycée. Mmh. Parce qu'en fait, la majorité des gens qui suivent des cours de portugais au lycée sont des enfants de portugais. Mmh. J'étais allée dans cette classe. J'avais, à l'époque, je savais pas encore très très bien ce que j'allais écrire. Je voulais juste rencontrer des jeunes filles, avoir un petit entretien avec elles, qui ne les engageait à rien. Donc j'ai fait mon petit speech pour expliquer tout ça. Et puis, ça, en fait, personne n'avait envie de me rencontrer. Donc le professeur était désespéré. Il a dit aux élèves, mais allez quand même. prenez rendez-vous avec Madame Ferrier. Ah, c'est très intéressant ce qu'elle vous propose et tout. Enfin bon, il s'est fâché. Donc tout le monde a mis son nom sur un papier, mais vraiment forcé. Et puis après, les gens ont dit, mais non, en fait, on n'a pas envie d'y aller. Alors que j'ai dit, mais si vous n'avez pas envie d'y aller, je ne vais pas vous forcer. Donc bref, je suis repartie un peu dépitée de cette salle de classe. Et là, j'ai senti quelqu'un qui marchait juste derrière moi, et c'était Pamela, qui n'avait pas osé devant tout le monde dire qu'elle, elle voulait bien me rencontrer. Et ça aussi, c'est
oui, ouais, ça,
très portugais, ça, peur du regard des autres, peur du jugement des autres. Donc, elle n'avait pas osé le dire, mais elle avait très envie de me rencontrer et de me parler.
Et elle est incroyable dans ce film, ouais. Pamela, et le film sort le 18 octobre, une semaine après le film de Laurent Cantet.
Ce qu'il a de très particulier, de très beau et de très soulageant pour un acteur, c'est que le mouvement est vraiment global. Il n'y a pas de hiérarchie des priorités. Il est focus sur le sens de ce qu'il cherche, sur le sens de la scène, de la situation. Et en fait, il n'y a pas, comme sur certains plateaux, le moment de la lumière, le moment des acteurs, machin n'est pas plus important que bidule, et l'acteur il est vraiment mis au centre, au milieu, pas au centre, du processus. Et ça, pour un acteur, c'est génial, parce que du coup, c'est l'occasion de s'oublier. Je pense que pour ces films, c'est, le sens est au cœur de tout, rien d'autre, ni lui, ni le reste. Et j'espère que je garderai comme référence ce truc de me concentrer sur l'essentiel. On est très facilement, nous, acteurs, surtout quand on a des premiers rôles, donc un certain pouvoir sur un plateau qui, je pense, est néfaste. On est souvent facilement parasité par des fausses questions et piégé par notre propre premier degré, et on s'accorde trop d'importance. Et j'espère que grâce à Cantet, j'espère que je garderai cette exigence-là. Il faudra que je me le rappelle quand je m'embarque dans une connerie de coiffure. À part ça, les cheveux, c'est très important.
Oui.
Mais non, mais je voudrais me souvenir de ça. Je pense que ça me rendra service et que je jouerai mieux si je n'oublie pas Laurent Cantet.
Ainsi parlait Marina Foïs de vous, Laurent Cantet, à propos de ce tournage et de ce film. L'atelier tourné à La Ciotat, une demi-douzaine de jeunes gens, jeunes filles, en échec scolaire et en réorientation, invités dans cet atelier à écrire donc collectivement un roman sous la houlette d'une romancière parisienne incarnée par Marina Foïs. Est-ce que ce groupe serait une synthèse de la jeunesse française, Laurent Cantet ?
Je ne cherche pas à faire un panel représentatif. En même temps, je pense que ce groupe, il est représentatif des jeunes qui ont eu envie de venir vers moi en acceptant de participer au casting. Je pense qu'on a à peu près retrouvé le profil de
Pourquoi ils voulaient ? Ils voulaient qu'on parle d'eux alors, quand ils sont venus vers vous ?
Non, mais le cinéma a un pouvoir d'attraction quand même très très fort et
sauf chez les Portugais.
Mais et quand on lance l'idée d'un casting dans une petite ville comme La Ciotat, très rapidement la nouvelle circule et on a pu rencontrer des centaines de jeunes gens avant d'arriver à trouver la quinzaine qui constitue les deux groupes qu'on suit dans le film.
La Ciotat, c'est pas un hasard, c'est une ville qui était célèbre pour ses chantiers navals et puis qui s'est retrouvée au cœur de la crise et qui a voté pour 44% Front National. Vous l'avez choisi comment, cette ville-là ?
Je l'ai choisi il y a très longtemps. En fait, on avait commencé à écrire avec Robin Campillo, qui est mon co-scénariste habituel, en plus d'être un réalisateur que tout le monde a repéré maintenant. Et on avait commencé à écrire à l'époque où le chantier venait de fermer, où il y avait eu un traumatisme très très fort dans la ville. La mairie et la mission locale avaient organisé un atelier qui ressemblait un peu à celui qu'on a essayé de refilmer là. À l'époque, ce qui importait, c'était de voir comment ces jeunes gens pouvaient encore avoir un lien avec le passé ouvrier de cette ville, avec le passé glorieux de cette ville, parce que le chantier était vraiment une espèce de fierté pour tout le monde. Et à l'époque, je voulais justement fouiller tout ça, et je trouvais que le dispositif était intéressant. je pense que j'ai pas trouvé la deuxième partie du film, qui est la partie plus romanesque dont on pourra reparler.
Oui.
Et que du coup, j'ai un petit peu abandonné le projet il y a 20 ans pour y revenir aujourd'hui avec l'envie de, cette fois, regarder les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui et pas celles d'il y a 20 ans.
On peut dire que c'est une jeunesse qui a pas d'idéal, ni d'idéologie, qui est mal regardée, qui est...
Bah, c'est une jeunesse qui est souvent stigmatisée, ouais. Effectivement. On les traite facilement d'idiots parce qu'ils passent plus de temps sur Internet que sur un bouquin de Balzac,
hein.
On a aussi peur de les écouter, à mon avis. On les regarde avec un surplomb qui forcément crée une distance que eux-mêmes nous renvoient forcément. C'est aussi des jeunes gens qui, pour la plupart de ceux d'ailleurs que j'ai rencontrés pendant le casting, étaient souvent confrontés à une vie sans beaucoup de perspectives immédiates, avec des petits boulots qu'ils font pendant un petit moment, sans savoir ce qu'ils vont faire la semaine d'après. Et puis, c'est des jeunes gens qui sont confrontés aussi à un monde qui est quand même, d'une part, beaucoup plus complexe, peut-être encore, que celui dans lequel, moi, j'ai pu vivre cette période de ma vie, et puis beaucoup plus violent, beaucoup plus... et ça m'intéressait de regarder un petit peu toutes ces composantes du monde auquel ils sont confrontés.
Dans des paysages qui sont sursignifiants par rapport à ces absences-là, c'est-à-dire parce qu'il y a des friches industrielles encore très très fortes, on voit le passé industriel de cette ville, il y a aussi une sorte de beauté naturelle avec les calanques, donc ils baignent en plus dans un environnement qui dit autre chose.
Oui, là, ce qui est très très beau, c'est qu'à La Ciotat, le chantier naval était complètement intégré à la ville. Il est dans le vieux port de La Ciotat, et les grues et les portiques qui étaient utilisés à l'époque, et qui sont des monuments absolument gigantesques, sont aujourd'hui d'ailleurs classés... c'est-à-dire que effectivement, le paysage renvoie toujours à ce passé-là. Quoi.
Parmi ce groupe, on peut dire que c'est un mouton noir, ce garçon, qui veut pas s'intégrer au groupe, qui raconte ses vérités un peu à tout le monde, qui fait de la muscu tout seul chez lui, qui regarde Internet, qui suit de près ou de loin un groupe extrémiste de droite via son cousin. Comment on peut le situer, ce garçon?
Je pense que c'est certainement celui qui a le moins de repères parmi tous ceux qu'on filme et qui est à la fois en train de se chercher et puis en train de se demander si ça vaut le coup de se trouver. C'est quelqu'un qui fait des expériences, c'est-à-dire qu'il est à sa place nulle part, que ce soit avec son cousin, effectivement, qui l'entraîne vers une idéologie d'extrême droite, à laquelle il n'adhère d'ailleurs pas forcément. Je pense qu'il fait ça un petit peu pour donner un peu de relief à sa vie.
Pour exister.
Ouais. Et puis, il n'est pas non plus à sa place dans l'atelier parce que il s'oppose aux autres continuellement. Peut-être parce qu'aussi il existe à travers cette provocation-là. Et en fait, il m'intéresse parce que je pense qu'il ressemble à pas mal de jeunes que j'ai pu croiser. Quoi.
On va écouter un extrait très fort. C'est un extrait de discussion entre Marina Foïs et ce groupe, et notamment ce garçon.
Mais putain, t'as de la javel dans la tête ou quoi, gros?
Pourquoi, c'est quel problème?
Je sais pas, on dirait que ça t'a fait bander d'écrire un truc comme ça.
Putain, mais on est en train d'écrire un roman noir, là, pas un truc à la fleur de rose, on va pas se forcer
à... l'eau de rose.
T'as dit quoi?
T'as dit à la fleur de rose, c'est à l'eau de rose qu'on dit.
Ouais, à l'eau de rose, c'est pareil. Et toi, tu fais le mec, mais t'es un putain d'hypocrite, parce que, par exemple, Scarface, on en a déjà parlé, et tu kiffes, et c'est 10 fois plus violent que ça. Donc cherche pas.
Il doit se comparer à Scarface.
Et toi, ton texte, on l'attend toujours.
Hein. T'inquiète.
Non, mais ce que t'as écrit, c'est pas mal, mais...
Bah alors, c'est quoi le problème?
Je sais pas, tu dérapes avec ta cervelle, tes calages, tu peux pas écrire des trucs comme ça.
Bah, Malika, on n'est pas là pour décréter ce qu'on a le droit d'écrire ou pas.
Attendez, il se rend pas compte qu'il y a des limites aussi.
Bah, je sais pas. Tu comprends ce que dit Malika? L'idée qu'il y a une ligne rouge et que peut-être tu l'as franchie.
Je sais pas.
De toute façon, c'est le début du texte, il est comme ça, il n'y a plus rien à dire après. Qu'est-ce que vous voulez écrire après ça? C'est trop gore, c'est dégueulasse.
Ah, c'est dégueulasse?
Ouais, ouais.
Toi aussi, tu trouves ça dégueulasse? Est-ce que tes amis ont fait au Bataclan?
Mes amis de quoi? Mes amis de quoi?
Arrête de provoquer.
Ferme ta gueule, mes amis de quoi? Arrête de provoquer, je vais piquer ta race.
Viens là,
tu es fatigué.
Fadi, calme-toi, Fadi. Tu te calmes, Fadi.
C'est un raciste, vous le défendez?
Non, je le défends pas. Je pense qu'on est là pour discuter, échanger nos points de vue, pas s'insulter.
Ah, c'est lui qui m'insulte, il insulte tous les musulmans, et vous êtes avec lui.
Non, je suis pas d'accord avec lui. D'ailleurs, Antoine, il y a des choses que j'ai pas envie d'entendre ici, c'est clair?
Ouais.
Bon, écoutez, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Antoine, mais je pense qu'il faudrait peut-être quand même parler autour de ça, par contre.
Autour de quoi?
Ben, autour de la radicalisation.
Ouais, tu veux faire une histoire de djihadiste, toi aussi.
Pourquoi pas, ouais.
Non, mais attends, j'ai pas envie que ce soit ces connards qui nous disent que le roman qu'on va écrire.
Ben justement, tu vois, on peut pas simplement dire que c'est des connards, enfin... Je sais pas, ils ont quand même changé notre vie, et... Moi, maintenant, quand je sors, vois, j'ai peur, ou en tout cas, j'y pense.
Tu l'entends, lui ? Il y a plus de morts dans des accidents de voiture que dans des attentats. Et tu me fais la chouchoute ?
En même temps, avec tout ce qu'on voit à la télé, moi, je peux comprendre qu'il ait peur, hein. Maintenant, quand tu es dans un centre commercial, tu penses au Bataclan. Et quand tu vois un gros camion blanc qui passe, tu penses à Nice, forcément.
On n'est pas en état de guerre non plus. C'est en Syrie, la guerre. Et ces trucs-là, ça se passe partout. Ça s'est passé à Tunis, à Paris. À Oslo, c'était un blond aux yeux bleus comme toi. Alors arrêtez d'inventer.
Bah, vous voyez, c'est clair, là, quand même. C'est la première fois depuis le début de l'atelier qu'il y a une vraie discussion qui nous touche tous.
Non, moi, ça m'intéresse pas, c'est tout.
Ouais. Bah, Malika, je suis d'accord avec toi. C'est un sujet avec lequel il faut faire hyper attention. Mais... Je pense qu'il faut avoir le courage d'en parler, tu vois.
Ouais, ça se voit que t'es pas un arabe, toi. Et l'autre, tu l'as vu, avec les amalgames, la stigmatisation, on y arrive vite, hein. Et je suis sûr que son tueur, ça va être un arabe.
Bah, pas forcément, hein. J'ai lu quelque part que 40% des radicalisés, c'était des bons Français bien blancs qui venaient de se convertir, ouais. En plus.
Et tu veux faire croire ça à qui, hein ? De toute façon, qu'il soit blanc, vert ou jaune, dans la tête des gens, sera toujours un arabe.
Non, mais attendez, là, vous repartez dans vos trucs politiques, là. Moi, j'ai juste voulu écrire une scène d'action, de suspense, et vous repartez en couille.
Et ben justement, c'est ça qui va pas. On dirait que tu t'en battais les couilles de ce que tu as écrit, t'as fait le mariole, t'as écrit des trucs de merde bien gore et c'est tout.
Hein ? Et alors ?
C'est juste pas possible, mec.
C'est toi qui aimes déjà ce qui est possible ou pas ?
Et alors, tu vas faire quoi ?
Comment ça, je vais faire quoi ? On va t'appeler un blanc ou quoi ?
Ferme ta gueule !
Non, tu parles comme ça ! Ferme ta gueule ! Arrête de sourire ! Arrête de sourire ! Baisse ta main ! Me menace pas !
Arrache-toi !
Je vais t'arracher la tête !
Parle !
Stop ! Tu te comprends, j'en ai arraché des têtes de
s'il vous plaît ! Oh !
Fatigué !
Assieds-toi ! Stop ! Incroyable ce dialogue si juste, on a l'impression d'être complètement au milieu d'eux. Est-ce qu'il y a des choses improvisées là-dedans, Laurent Cantet ?
Alors, il y a des choses qui sont nées d'improvisation qu'on a faites ensemble, ouais, pendant la préparation du film. Quand on est arrivé sur le tournage, les choses étaient assez en place et en fait, c'est là que moi, ces jeunes gens m'impressionnent, c'est qu'ils sont capables de retrouver l'énergie qu'ils avaient mis dans l'improvisation, qu'ils sont capables de refaire cette scène, on l'a dû la refaire 30 fois, hein, ouais, sous différents axes, avec toujours la même justesse et le même sentiment que c'est la première fois, quoi.
Laurence Ferrar, Barbosa, vous avez vu le film, ce genre de scène est quand même percutante, hein, c'est
oui, tout
juste et vraiment.
Non, mais ce qui est, je trouve que, en tout cas, on voit des jeunes gens qui, pour le coup, sont pas du tout idiots, mais qui, au contraire, s'interrogent, réfléchissent et discutent. et effectivement, le personnage, je sais pas comment il s'appelle, Antoine.
Oui.
C'est un personnage qui veut penser un peu à contre-courant, mais parce que je pense qu'il se satisfait pas de ses discours un peu convenus ou en tout cas formatés, il a envie de creuser, et ça je trouve ça intéressant.
Mmh. Il est un peu camusien, ce personnage, non ?
Oui, certainement. C'est pas quelque chose que j'avais en tête au moment où on a écrit, ouais, au montage, ça m'a d'un seul coup sauté à la figure.
Mais oui.
Et aussi, ce que je ressens par rapport aux autres jeunes gens qui sont dans l'atelier, c'est que les autres veulent un peu quand même des histoires, enfin, avec un discours un peu politique, alors que lui, il veut juste de la fiction. Il est plus, même si c'est une fiction très formatée aussi, film d'action, violence,
il a plus
un besoin de fiction.
Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est lui qui va nous emmener vers la fiction,
voilà.
et toute la discussion qui a lieu autour de la table va progressivement infuser en lui et dans cette histoire qui va le lier à...
Et en elle, parce que cette romancière, elle a peur, mais elle est fascinée par le dispositif de ce garçon, sa force.
Oui, très séduite, par son intelligence, ça c'est certain, par son désarroi sûrement aussi. Elle peut être aussi touchée sensuellement parce que le film, oui, en tous les cas, ouvre cette piste-là. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'aussi elle sorte finalement presque autant transformée par cet été qu'ils auront passé ensemble que les jeunes autour de la table, quoi.
Ça s'appelle L'Atelier, Laurent Cantet, ça sort mercredi prochain et Tous les rêves du monde. Laurence Ferreira Barbosa sort le 18.
Un film qu'on vous recommande chaudement.
Après M6 Solar, on se retrouve pour les sorties.
Je
commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, il y a 5 filles contre et 5 gars pour. Routard, je leur soumets mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Une Asiate me branche, veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse sec comme un schnapps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil de Taïwan.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnotique, géopoétique.
S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris, Dieppe, Ayep ou vol comme Bob au coma.
Depuis des lustres, je rafale sur le diable, mais pas de bol qui vit.
Une promo d'Opodo cadeau me mène en Bolivie. Au Vatican, des Helvètes scrutent les pratiquants. Je jure que tu peux en voir le soir, cité du Vatican. Donc, j'ai fait mon service dans la Confédération Suisse. Si j'aime ça, affirmatif. Y'a que la Confédération Suisse.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, paysage angélique, art automatique, monde hypnotique, géopoétique.
Du monde j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles. J'y ai appris des choses, en grillant tous mes miles. J'ai connu la Pologne, la gare de Bologne. Je sais que pour la chasse en Sologne, faut pas mettre d'autres colonnes.
Les sorties de ce mercredi, Laurent, on va commencer par le nouveau film de Michael Haneke qui s'appelle Happy End. Un film choral sur une famille bourgeoise de Calais qui a fait fortune dans le bâtiment. Le fondateur, incarné par Trintignant, suicidaire, sa fille Huppert froide comme une pianiste. Son mari, le psychorigide, est volage chez Kassovitz, plus la petite fille et l'héritier autodestructeur. Bref, un catalogue de névroses, celles répandues dans tout le cinéma d'Haneke, et revisité ici comme si le maître autrichien tournait un peu en rond.
Oui, vous avez oublié d'ajouter notamment que la petite fille a tué sa mère, oui. Ce qui alourdit la barque un peu plus, et que tout effectivement se situant à Calais, on aura bien sûr dans le tableau un moment ou un autre, mais bien tard et de façon bien à la fois illustrative et peu intéressante sur le fond des immigrés. Oui, non, je trouve que le cinéma de la cruauté, au bout d'un moment, ça suffit. C'était, hélas, une grosse tendance de Cannes cette année. On parlera d'autres films de ce type-là, mais je trouve quand même qu'il y a une façon d'alourdir un propos qui pourrait être plus subtil, parce qu'à force de montrer des adultes aussi caricaturaux, où rien, au fond, ne peut se rattacher à rien, et on finit par regarder, comme Haneke le fait, ces petits êtres humains s'agiter avec finalement ce qui, moi, me semble être une dose de mépris.
Il y a quand même Trintignant qui domine l'ensemble. Et Trintignant, je voulais signaler la belle interview crépusculaire dans Première de ce mois-ci. Blade Runner 2049, endossé par Denis Villeneuve. Dès les premières images, un contre-pied visuel éclatant. Celui-là est Diurne, contre le 100% nocturne de Ridley Scott. Mais on y retrouve, bien sûr, les vues planantes de Los Angeles. La pluie, les engins volants, ceux de la police, les Blade Runner, chargés de traquer et d'éliminer les vieux modèles de réplicants. Le Blade Runner, c'est l'officier K, Ryan Gosling, lequel va découvrir un secret qui risque de faire basculer l'ordre du monde. Je n'irai pas plus loin dans ce synopsis, juste dire qu'il étaye les théories amorcées dans le premier, l'original, et qu'il va les expliquer au fur et à mesure dans un jeu de marabouts de ficelles pré-mâchées. C'est dommage. Moi, je fais partie de ceux qui préféraient les mystères et les interrogations du premier. Sinon, les décors sont absolument hallucinants, la photo est splendide. Et même si Villeneuve parvient à nous greffer une théorie en tête sur l'identité de K, comme on greffe des souvenirs chez les réplicants, il ne parvient pas, comme Ridley Scott, a insufflé de la mélancolie et du désarroi existentiel. En allongeant les plans et les scènes, il nous procure surtout de l'ennui, sans compter quelques faux pas comme la fiancée virtuelle, ratée et même embarrassante. Enfin, ce qu'on craignait le plus, Laurent, c'est la réapparition d'Harrison Ford, qui se révèle être finalement l'atout maître majeur de ce film, qui va le réveiller. Après tout, c'est lui, Rick Deckard, le nœud gordien de cette histoire. Harrison Ford porte enfin son âge sur sa gueule, et quelle gueule, qui incarne à elle seule tout ce qui manque à ce film, l'attention, le mystère, l'émotion. Il a pleuré, je l'avais jamais vu pleurer au cinéma. Va Toto de Pierre Creton, ça c'est la curiosité de la semaine, Laurent, l'arrivée de Toto le Marcassin chez Madeleine et un film qui évoque notre rapport à l'animal.
Oui, c'est l'objet filmique non identifiable, non identifié de la semaine, effectivement, qu'on aurait aimé plus, si je puis dire. S'il s'était tenu à ce premier programme que vous venez de décrire, c'est-à-dire l'improbable rencontre entre Madeleine et Toto, ce petit marcassin que moi je ne connais plutôt qu'en civet ou en terrine, mais c'est très joli un marcassin. Donc il y a effectivement une vraie relation qui se crée entre ces deux-là, entre cette vieille femme un peu isolée, solitaire, et puis cet animal qui évidemment ne lui renvoie rien, mais sauf ses désirs à elle. Et puis Creton, je ne sais pas pourquoi, est allé chercher d'autres histoires d'animaux, d'autres pays, l'Inde,
des singes
en Inde, etc. Alors, il tente des choses comme le split screen en documentaire, c'est quand même assez rare pour montrer Madeleine et son petit cochon, mais moi ça me plaît beaucoup. Bref, tant qu'on est chez Alain Cavalier, et c'est pas seulement parce qu'on est en Normandie qu'on y est, ça va. Après, la façon dont Creton essaye d'alimenter son propos autrement, j'avoue que je suis moins client.
Le sens de la fête, Éric Toledano, Olivier Nakache. À l'origine, ils voulaient appeler leur film « Les temps difficiles ». Avec cette envie, je cite, de décrire les travers de la société actuelle, vaste programme, plutôt ambitieux, surtout quand il s'agit de faire rire en même temps. Ils choisissent donc un événement, un mariage, en filmant les coulisses, ces petites mains de l'ombre, de toutes origines, leurs échecs, leurs préoccupations, et de cette ambition initiale, il reste juste une comédie sur un petit patron, ses employés payés au noir, ses sans-papiers, le tout ponctué de gags qui font pas toujours mouche, de facilité narrative, de répétition, un gag marche, pourquoi ne pas l'user jusqu'à la corde, avec des jolies idées aussi, et le tout, il faut le reconnaître, servi par des sacrés comédiens quand même, Bacri en tête, Gilles Lelouch et Benjamin Laverne pour le rôle du marié.
Moi j'aimais bien Toledano Nakache quand ils s'intéressaient aux colonies de vacances, parce que ça mangeait pas de pain, ils avaient des bons gags et ça marchait bien. Depuis qu'ils ont fait un énorme succès où on leur a dit qu'ils étaient les sortes de sociologues de la France actuelle, ça va plus du tout. Et leur petite entreprise, parce que vraiment ils ressemblent à deux petits patrons à mon sens, commence effectivement à turbulé, à se prendre beaucoup au sérieux. C'est le premier film macronien. Bon, ben, il en fallait un. C'est eux qui l'ont pris en charge. C'est le premier film macronien parce que, par exemple, il y a une scène extraordinaire où des musiciens arrivent sur ce mariage. Ils sont évidemment syndiqués. Ils ont un contrat de travail et ils revendiquent de manger, comme c'est écrit dans leur contrat de travail, de manger comme les mariés, de manger comme tout le monde. Eh bien, vous savez ce qui va leur arriver puisqu'ils réclament leurs droits, puisqu'ils réclament leurs dus, puisqu'ils réclament l'interprétation, mais le strict respect de leur contrat de travail. Eh bien, ils seront punis et ils seront intoxiqués alimentairement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
C'est comme ça que vous traitez les fainéants.
Voilà, ce sont des fainéants, absolument, Laurent Cantet, vous avez tout compris. Et face caméra, à un moment donné, l'excellent Jean-Pierre Bacri, je suis entièrement d'accord avec vous, se livre à une incroyable lecture de la loi travail et une sorte de défense et illustration de la loi travail qui est absolument sidérante. Voilà, alors le sens de la fête, il est de moins en moins présent. Si vous voulez vraiment revoir un beau mariage, bah, allez voir celui d'Altman, par exemple.
Oui, enfin, ça reste une comédie vraiment.
Je la sens un peu moins comédie que cela. Bon, allez.
Téhéran Tabou de Ali Souzandeh, expatrié d'Iran depuis 20 ans, et c'est depuis l'Allemagne qu'il a réalisé cette fiction en animation, la rotoscopie, vous savez, les acteurs sur fond vert et redessiné. Par la suite, un film, Laurent, pour dénoncer les tabous liés à la sexualité en Iran.
Oui, s'il l'a fait sous cette forme-là, c'est tout simplement parce qu'il ne peut pas tourner
bien
en Iran.
Sûr, hein.
C'est très clair. Donc c'est un film contre la censure. C'est un film qui se passe à côté de la censure et qui dit énormément de choses sur la société iranienne, ses blocages et aussi ses façons très malines, très drôles, très humoristiques de contourner en permanence les tabous, la loi, les règlements, les barbus. Et ça donne un film au fond qui est à la fois totalement désespéré et totalement euphorique.
Ah, enfin, une que vous aimez. Latifa, le cœur au combat de Olivier Payon et Cyril Brody. C'était une héroïne de la vraie vie, Latifa Imdiaten, mère d'Iman, et assassinée par Mohamed Merah. Et elle est filmée dans son combat quotidien contre la radicalisation de la jeunesse.
Oui, c'est quelqu'un dont on va entendre parler là oui. souvent, puisqu'il y a le procès qu'on sait. C'est effectivement une mère courage qui a décidé de prendre son bâton de pèlerin, ouais. pardon, dans toute la France pour dire à deux communautés qui se regardent un peu en chien de faïence, d'une part à ceux qui se réclament de l'islam ou qui sont musulmans, écoutez, il faut impérativement ne pas tomber évidemment dans l'extrémisme et continuer à parler, et puis aux autres effectivement dire ne condamnez pas de façon trop importante ou trop vive. Donc c'est un formidable combat avec cette espèce de, comment dirais-je, de petit bémol qui fait qu'on voit aussi sa propre vie à elle, de mère de famille, se déliter sur cet hôtel-là, et c'est d'autant plus courageux.
Dans la forêt enchantée de Oukibouki de Rasmus Iversten, adapté d'un livre très populaire en Norvège, en animation stop motion, ponctué de chansons, et pour les moins de 8 ans, Laurent.
Ah oui, vraiment, 8 ans, c'est déjà énorme. Je pense qu'il ne faut pas y aller en dessous, au-dessus de 7 ans. Bon, écoutez, moi, le discours principal, c'est un film très vegan. Alors, je suis pas certain d'y adhérer de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les petits animaux se mangent entre eux, etc. Donc, c'est vraiment très, très vegan. L'avantage, en tout cas, de mon point de vue, c'est que c'est un film parcouru de chansons, et elles sont tellement nulles, elles sont tellement mauvaises, elles sont tellement à la fois mal écrites, mal dites, etc., qu'on se dit, bon, ben tant pis, c'est pour les véganes, mais au moins, cette fois-ci, ça ne passera pas.
Il nous reste une minute pour le film de Godard et les cadeaux, donc Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, qui est l'histoire du cinéma tué par la télévision, un Exactement. Film réalisé pour TF1 en 1986.
Merveilleuse fable godardienne, D'accord. ironique à souhait.
Des cadeaux pour nos invités.
Oui, c'est vous qui les avez,
non,
je crois.
C'est pas moi qui les ai.
C'est pas vous qui les avez. Bon, alors, il y aura donc un grand disque vinyle pour Laurence Ferrabrosa, et c'est Audrey Hepburn ouais. qui chante un disque entier avec des chansons Moon River, bien entendu, formidable disque, extraordinaire. Et puis un double DVD pour vous, Laurent Canté, Grand Soir et Beau Lendemain 1945-1948, le cinéma militant dans la France de la guerre froide notamment. C'est un coffret de deux DVD avec un merveilleux livret de Tavernier. Ce sont vraiment là du beau travail documentaire. Je pense que vous apprécierez, vous, le spécialiste du travail, ce genre d'archives.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Tous les
Merci
rêves du monde. Laurence Ferreira-Barbosa, sorti le 18 octobre. Laurent Canté, l'atelier, sorti mercredi prochain. Nous l'avions trouvée très faible et à la fois très vaillante et surtout très courageuse d'accepter cette interview il y a à peine un mois. Mmh. Anne Wierzemski s'est éteinte cette semaine jusqu'au bout. Elle a défendu ce film Le Redoutable de Michel Hazanavicius, adapté de deux de ses livres, Une année studieuse et surtout Un an après, où elle raconte sa grande histoire d'amour avec Jean-Luc Godard. Wierzemski, actrice au début de sa carrière, avec notamment Bresson, Bertolucci ou Pasolini, et écrivain par la suite, c'est avec elle que nous conclurons cette heure.
En vieillissant, carrément de décennies, j'ai commencé à en avoir marre des conneries que je disais sur mon compte. Car ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'il y a des biographies avec des éléments complètement faux qui sont pris sur Internet, Et ensuite, qui sont répétés ad vitam aeternam. Et il y a eu un moment où j'hésitais, et je me suis dit non, allons-y, au contraire. Moi, j'aurais mon mot à dire là-dessus.
Vous n'avez pas eu peur?
Non, mais vous savez, on est tellement pris par la peur, justement, d'arriver à exprimer ce qu'on veut exprimer, que l'après n'existe pas. Juste le faire.
Peur de lui faire du mal, peut-être?
Non, c'est un crocodile.
Parce que c'est un homme très secret. Il n'y raconte rien sur sa vie.
Rien.
Et je l'imagine lisant ses pages, où vous faites l'amour, etc. Vous voyez, les descriptions, ça a dû lui faire dresser les cheveux sur la tête, même si c'est un crocodile.
Mais j'aurais adoré que le crocodile sonne à la porte.
Pour vous dire quoi?
Oh, on s'aimait bien, quoi.
Vous avez écrit en partie les deux livres pour ça, en pensant à ça?
C'était pas absent. Mais je peux penser la même chose, cette vision de Midinette et le crocodile.
Est-ce que vous l'avez revu?
Jamais. À partir du moment où il ne voulait plus jamais, on s'est croisés à Cannes, au moment de Passion, et j'étais avec Serge Danet et je ne sais plus qui. Et Je disais à Jean-Luc que je le cherchais pour lui dire à quel point j'avais été émue. Puis de sa voix lente, très Louis Garrel, il a dit « Je ne veux plus jamais t'émouvoir, comme je ne veux plus jamais être émue par toi. » C'est une émission inspirée par les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Campes a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Martine Messonnier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Anne Belfeld. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Anne Wiazemski, j'y étais.